Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le titre pour aujourd'hui, pour moi, c'est expérimenter la puissance de sa résurrection. Et j'aimerais, pour le partage de la parole de Dieu, qu'on soit essentiellement dans l'épître aux Philippiens. Donc si vous voulez ouvrir votre Bible, vous pourrez suivre un certain nombre de passages pour l'épître de Paul aux Philippiens. Nous pourrons, ce n'est pas une étude exhaustive de Philippiens, vous pourrez lire l'épître vous-même. Et il y a 4 chapitres et en gros, je voudrais juste partager avec vous 4 aspects. Un aspect pour chaque chapitre. Le chapitre 1, Paul nous parle de ses liens, de ses souffrances. Il parle même de la mort qui est pour lui comme une délivrance qui serait préférable à ce qu'il vit maintenant. Dans le chapitre 2, il nous parle de certaines choses qui font du bien à son âme. Avec toutes ces souffrances qu'il a connues, il y a une consolation et il y a quelque chose qui ressemble à une lueur d'espoir. Et au chapitre 3, il parle d'expérimenter la puissance de Dieu, de connaître la puissance de la résurrection. Et au chapitre 4, il nous parle de la joie, de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir de pensées négatives. Et à un moment donné, il transforme cette joie en grande joie. Et il dit, et j'ai été comblé. Donc je veux dire, il y a une progression énorme dans juste 4 chapitres d'une épître d'un homme qui était âgé, qui était à la fin de son ministère et qui était en prison. Mais dans cette prison, il expérimente malgré tout cette délivrance par rapport à un état d'âme, par rapport à une souffrance, et cette épître est encore tellement précieuse pour chacun d'entre nous. Donc, ayant en vue cette progression, ces 4 points, la première chose que je voudrais dire pour l'introduction, c'est que nous sommes tous, d'une certaine façon, prisonniers encore de certaines choses. Nous savons que nous pouvons déclarer celui que le Fils a franchi est réellement libre, que nous sommes libres en Jésus, etc. Mais il y a des choses qui nous retiennent. Chacun d'entre nous, on a des choses qui nous retiennent. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau de nos capacités, de nos possibilités, peut-être au niveau professionnel. Il y a des choses qui nous retiennent. On n'a pas vraiment ce que nous désirons. Et donc, Paul, il commence à parler de sa situation et nous voyons que dans sa situation, alors même qu'il est prisonnier et qu'il écrit aux Philippiens, et il dit « voilà tout ce qui se passe en moi ». Il ouvre vraiment son cœur et dit une bonne chose au verset 3 « je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous ». Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Et là, il applique déjà un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Rendre grâce à Dieu. Toujours voir que Dieu est là et qu'il agit pour nous. Il fait des choses pour nous. Et aussi le souvenir que je garde pour vous. Même si nous avons de bonnes relations les uns avec les autres, il y a forcément dans les relations humaines, de temps en temps, des choses qui ne vont pas. Et on pourrait garder un souvenir de « ce jour-là, il m'a fait ça ». Ce jour-là, il m'a dit ceci, ou il n'a pas fait cela, etc. On pourrait faire une liste, et beaucoup de gens se sont piégés comme ça. Nous parlons du pardon, nous parlons d'oublier, etc. Mais vous vous rendez compte, le nombre de gens qui n'ont pas comme nous cette culture biblique de pardonner et d'oublier. Et au contraire, ils entretiennent la rancœur, etc. Et ils dressent une longue liste de tous les griefs qu'ils peuvent avoir contre quelqu'un, et ils pensent punir la personne et se venger. Mais en fait, ils se piègent eux-mêmes. Ils sont les premières victimes de ces listes. Mais Paul dit, je rends grâce à Dieu pour le souvenir que je garde de vous. Ça veut dire qu'ils étaient parfaits, non? Les Philippiens n'étaient pas parfaits non plus. Comme les autres n'étaient pas parfaits. Mais il a décidé, je garde le souvenir. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Il savait dans chaque situation manifester sa joie. Pas seulement être joyeux, mais manifester. On a parlé tantôt qu'il y a pas seulement la joie intérieure, Il y a aussi je l'extériorise et je le montre concrètement, que je suis heureux de certaines choses. Quand on entend que quelque chose se passe ailleurs, une campagne d'évangélisation qui réussit, un ministère qui perce, une nation qui est transformée, une guérison qui a toujours manifesté sa joie. Quand on est trop centré sur nous-mêmes, quand on n'a pas d'assurance, quand on ne sait pas très bien où Dieu veut nous conduire, on est dans l'insécurité, et alors quand il se passe quelque chose, ça nous renvoie toujours à nous-mêmes. Oui, mais chez nous, mais pourquoi pas chez nous? Et pourquoi pas au travers de moi? Et on est avec des sentiments et des pensées de ce style. Mais celui qui grandit en Christ, il balaye ces choses. Et il commence d'abord à manifester sa joie pour tout ce qu'il entend. Pour lui, tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, n'importe où dans le monde, par n'importe qui, est un sujet de joie. Notre équipe vient de marquer un point. On est dans le même camp, on est dans la même armée. Donc il n'y a pas ces jalousies qui font que ce que Jésus avait dit, c'est un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Donc il manifeste sa joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, pas seulement parce que l'évangile progresse, mais parce que vous avez une part concrète. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait regarder en détail, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais en allant un peu plus loin dans ce chapitre 1, il dit « Là où je suis, en prison, je veux que vous sachiez, frères, verset 12, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » C'est pour nous une chose étonnante. Je pense que personne d'entre nous n'a envie d'être privé de liberté, de se retrouver en prison ou persécuté ou n'importe quoi. Mais on a entendu plusieurs fois des témoignages, y compris de gens qui travaillaient dans le cadre de l'église persécutée, où des chrétiens en prison ont finalement dit « Je suis heureux que ça soit arrivé parce que j'ai pu, à l'intérieur de la prison, faire l'œuvre de Dieu. » On peut aussi faire l'œuvre de Dieu au travers d'un ministère de visiteurs de prison, c'est aussi possible. Mais dans certaines situations, ils étaient arrivés aux mêmes conclusions que l'apôtre Paul, que même si le diable veut lancer quelque chose contre nous, eh bien cette chose, on l'a fait contribuer au royaume de Dieu. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire, peu importe ce qui arrive, n'importe comment, c'est toujours une bonne chose. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que même dans l'adversité, même dans la situation difficile, quelque chose peut être transformé pour la gloire de Dieu et finalement contribuer au progrès de l'évangile. Pour nous, c'est naturellement, à mon avis, on doit résister à ça. On n'a aucune envie de ça. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Et il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc tout le monde savait, ce Paul, il n'a absolument rien fait contre la loi. Son seul crime, c'est d'être attaché à Christ. Les gens savaient, vous savez, c'est injuste ce qui lui arrive. Il est là en prison et il ne devrait pas y être. Et alors ce qui est important, c'est de voir son attitude. Et là, il voyait aussi son attitude. Son attitude, c'était privé de liberté, pourtant, c'est quelqu'un qui savait réagir. Et il dit même, ils n'ont pas dit, maintenant il ne faut plus qu'on parle de l'évangile, sinon on va tous se retrouver en prison. Ils ont au contraire encouragé parce qu'ils ont vu l'attitude de Paul, malgré ce qui lui arrivait. Et ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et là vient quelque chose qui, pour nous, est encore plus étonnant. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il faut manifester notre joie pour la part que certains prennent à l'évangile ou les succès que d'autres ont. Mais maintenant, on va plus loin encore, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute. Pour nous, c'est même un sujet de perplexité. Prêcher Christ par esprit de dispute, comment est-ce possible? Mais des fois, on peut dire les choses justes, mais de la mauvaise façon. Et donc, on peut aussi dire, comme si vous vous rappelez la petite anecdote dans les Actes des Apôtres, il y avait une servante qui était possédée par un mauvais esprit, il nous est dit un esprit de Python, pouvait faire de la divination, qui disait 100% la vérité. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent la voie à suivre. Donc elle disait 100% l'évangile et la vérité, et pourtant elle était possédée par un mauvais esprit. Et ici des gens prêchent Christ par envie. Ils voulaient prendre la place de Paul, ils voulaient aussi influencer des personnes. Esprit de dispute, il le contredisait pour certaines choses. Il dit, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction. Et là, le mot important, verset 18. Qu'importe ? Il faut que vous appreniez à dire qu'importe dans votre vie. Qu'importe, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez trier dans les choses où vous allez appliquer votre attention ou non. Si vous dites qu'importe, on a des mots plus familiers, même plus vulgaires en français, ça veut dire je m'en fiche ou je m'en fous, là c'est carrément, on est dans le vulgaire, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire à un moment donné, on se détache de certaines choses. On ne permet pas qu'elles occupent notre esprit, que toujours je suis tourmenté, comment j'ai solutionné cette chose, comment je vais régler. À un moment dit, il faut dire qu'importe. C'est plus mon problème. On y viendra tout à l'heure. C'est plus mon problème. Bonne expression aussi. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Et alors, ah, encore une fois, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors, il se réjouit parce que malgré tout qu'il soit en prison, les autres sont encouragés. Je suis en prison, mais il y en a qui veulent me faire du mal. Mais moi, je me réjouis parce que Christ est annoncé. Et donc, il établit son style de vie qu'il a choisi. Il a choisi une fois pour toutes qu'il ne voulait pas se faire avoir au niveau de ses sentiments. Ces sentiments, vous savez, qui nous piègent toujours. Alors, on est abattu parce qu'il y a une mauvaise nouvelle ou parce que quelqu'un n'a pas été gentil, il m'a pas dit bonjour, ou des choses très graves comme ça, mais qui montrent que voilà, c'est sensible et alors rapidement ça fait mal et bien sûr le diable est toujours à l'affût pour dire ah, je peux le piéger. Là, si j'arrive à le piéger sur ce point, là, sa journée va être gâchée. Hein. Et donc il sait comment faire. Il fait bien son boulot de diable, comme disait quelqu'un. Alors, mais l'apôtre Paul sait se réjouir en Christ et au verset 19, il dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Et j'aimerais rappeler quand même que dans un contexte comme à l'époque, quand quelqu'un était en prison, il ne savait pas quand il allait sortir. Et il ne savait pas s'il y aurait une remise de peine ou quoi que ce soit. C'était la plupart du temps, dans beaucoup d'endroits, et nous pouvons le lire dans le Nouveau Testament, il y avait déjà beaucoup de corruption. J'ai lu encore dans les Actes des Apôtres qu'à un moment, il nous est dit, il faisait venir Paul fréquemment pour l'entendre, mais il nous est dit dans la Bible qu'ils espéraient qu'il lui donnerait de l'argent. C'est ça qu'il les souhaitait. Et c'est de cette façon qu'on pouvait espérer être libre, remise de peine, etc. Le monde n'a pas changé depuis. Mais donc, l'apôtre Paul, il croit à deux choses. Que les prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus vont faire que quelque chose, même cette situation difficile, va être tournée et que ça va tourner à son salut et que ça va avoir une bonne fin. Donc, il dit, j'ai une ferme attente, verset 20, j'ai de l'espérance, je n'ai honte de rien, et maintenant comme toujours, ça c'est une bonne déclaration, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie et soit par ma mort. Alors là, c'est l'apogée de la consécration des disciples. Il dit, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il y a des gens qui ont fait graver ça sur leur tombe. C'est un bon témoignage quand les gens se promènent dans les cimetières. Christ est ma vie et mourir m'est un gain pour qu'on réalise. Le meilleur, c'est d'être auprès de Dieu. Tant qu'on est dans ce corps, on peut vivre des choses agréables. Mais l'apôtre Paul nous dit, on est loin du Seigneur. On est encore d'une certaine façon éloigné. On est prisonnier, à un moment, il disait, on est comme prisonnier de cette tente dans laquelle on habite. Mais un moment viendra la transformation et la vraie libération. Donc il nous explique que pour lui, le meilleur, ce serait maintenant d'en terminer avec cette vie, d'être auprès de Christ. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Là encore, il nous montre son niveau de consécration. Pas ce que je veux. Qu'est-ce qui m'est le plus agréable? Ah ben, j'ai assez souffert, j'ai assez travaillé. Je suis en prison maintenant, je suis vieux, j'en ai marre, c'est fini, je veux partir, point, terminé. Non, il dit, maintenant encore, je cherche, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que je dois choisir? Là encore un point intéressant par rapport à tous ces gens qui pensent que tout est écrit à l'avance et quand l'heure est là, alors on peut rien en changer, blablabla. Non, il n'y a pas forcément une heure qui est déterminée. Et vous faites ce que vous voulez, peu importe, quand l'heure sera là, vous allez... Non, Paul dit, je ne sais ce que je dois préférer. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire pour soit continuer la course, soit baisser les bras. On peut penser aussi, dans le livre sur la méditation quotidienne de la santé, la nourriture de la santé de Ken Sagan, il raconte comment cette dame qui était évangéliste, qui avait 80 ans passés, etc., était malade, et elle a dit, bon, maintenant, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup fait, je vais mourir. Et il dit, non, ne mourrez pas de cette façon. Laissez d'abord Dieu vous guérir, ensuite vous pourrez mourir. Et donc, il la convainc d'accepter la parole de Dieu concernant la bonne santé, et elle est guérie. Et donc, elle a eu encore l'occasion d'exercer un ministère pendant une quinzaine d'années. Et donc, de dire à un moment donné, on est peut-être tenté de baisser les bras dans n'importe quelle situation. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude, de dire, maintenant j'en ai fait assez, ça suffit. Non, ça suffit pas. Tu peux toujours encore aller plus loin. Et là, il dit, je ne sais pas ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Et ça, c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont sous la pression, qui sont sous les circonstances. Mais lui, il y a une autre pression. Voyez, la pression, elle est différente. Elle n'est pas du diable ou du monde ou des circonstances. La pression que lui, il ressent, elle est à l'intérieur. Il y a une pression au niveau de son esprit qui le presse à vouloir être auprès du Seigneur. Et il y a une autre pression aussi de l'Esprit de Dieu qui le presse à vouloir rester au milieu des gens qui ont besoin de son ministère. C'est une double pression, mais qui va dans le bon sens. Pas une pression pour détruire. C'est comme un désir. Il y a des gens qui ont, qu'on peut appeler des désirs coupables. C'est-à-dire des désirs qui vont les conduire à la mort, qui vont nuire à leur être. Et puis, il peut y avoir des désirs selon Dieu, qui sont aussi le moteur de nos actions, qui nous poussent aussi à agir. Mais c'est dans un autre sens. Donc, désir, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou bon en soi. Et pression, ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais en soi. Ça dépend d'où ça vient. Mais là, ça vient du bon côté. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. À cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et il accepte. Et il dit, bah, oh non, j'avais tellement envie de partir, mais maintenant je suis obligé de rester. Non, c'est lui-même qui dit, oui, je reconnais que vous avez encore besoin de moi, que je vous soutienne et que j'agisse. Donc voilà un petit peu pour ce début, les liens, les souffrances, ce qui conduit à la mort, mais on voit déjà ce qu'on appelle des fois un fil rouge, un fil conducteur tout au long, la joie qui est présente, l'action de l'esprit qui est là dans sa vie. Il n'est pas seul en prison. Comme il nous est dit de Joseph dans l'Ancien Testament, l'Éternel était avec lui en prison. Et on voit que chaque situation qui pouvait être dramatique pour certaines personnes, pour lui, c'était transformé en bénédiction. Dieu le faisait, malgré les circonstances extérieures, gagner dans beaucoup d'autres domaines. Et puis, il en vient des choses plus personnelles. Avec tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai vu, on pourrait aller dans d'autres épîtres où on voit que ça lui pesait, il travaillait tellement à l'édification de l'Église, et puis il voit tous ces gens qui se disputent, qui se chamaillent, etc. Et alors il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, si vous voulez me faire du bien, si vous voulez que je sois consolé au milieu de tout ce que j'ai souffert, si vous voulez me faire du bien dans l'amour, Si réellement on est en communion les uns avec les autres, je vais vous dire ce qui me fera vraiment du bien. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est-à-dire, mettez-vous d'accord sur l'essentiel. J'ai dit, il y a ce tri à opérer. Il y a des choses, c'est qu'importe. C'est pas tellement important. Je suis consterné de voir comment on peut se disputer sur rien, des choses sans importance dans le corps de Christ. Faut-il prendre la Sainte Cène avec une coupe ou avec des gobelets? Faut-il prendre du pain levé ou du pain pas levé? Faut-il prendre toutes ces petites choses n'ont aucune importance à mes yeux. L'important, c'est dans la réalité de ce que nous vivons. Est-ce qu'on discerne le corps? Est-ce qu'on est capable de recevoir la coupe de bénédiction? Ça, c'est important. Donc, Paul dit aussi, toutes ces choses qui font que les gens ne sont pas d'accord entre eux, ne faites rien par esprit de parti. Vous avez vu que tout à l'heure, on a dit, on peut déjà prêcher Christ par esprit de dispute. Et maintenant, on a des gens qui agissent par esprit de parti. On ne parle pas de la politique, esprit de parti. On ne parle pas de l'extérieur. On ne parle pas des non-croyants. On parle à l'intérieur du corps de Christ. Des gens par esprit de parti ou vaine gloire. Donc, il y a la gloire de Dieu et il y a la vaine gloire. C'est les gens qui recherchent une gloire que nous savons passagère et vaine parce que inutile. Parce que vous savez, si vous expérimentez la gloire de la part des hommes, ça peut être en haut un jour et complètement en bas le lendemain. Ça marche dans tous les domaines. Les gens sont prêts à se faire des idoles et le lendemain, on est prêt à les lapider. Mais il nous est dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, sachez reconnaître les qualités, la valeur des autres personnes. Donc, on est dans ce chapitre 2 de la consolation. Comment cette consolation va se manifester? En regardant à Jésus lui-même. Comment il s'est comporté? Comment il a agi? On revient à lui. Parce que c'est lui la personne la plus importante dans notre vie. Comment a-t-il agi? Qu'aurait-il fait à ma place? Donc, il y a beaucoup d'exhortations très intéressantes. Mais nous en arrivons un peu plus loin dans le chapitre 2, où il parle de Timothée et d'Épaphrodite, deux compagnons d'œuvre. Et vous savez, c'est très important, les compagnons d'œuvre. Parce que, bien que nous ayons parlé de l'assistance du Saint-Esprit, combien nous qui sommes humains, on a besoin des fois d'une personne. Vous savez, j'allais dire une vraie personne, mais dans le sens humain, quelqu'un qui vous parle, qui est là, que vous pouvez voir, qui vous soutient. Bien sûr, nous avons l'aide de Dieu, nous avons même les anges, nous avons l'action du Saint-Esprit. Mais en même temps, Dieu nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Il peut aussi répondre au travers d'une personne physique, bien présente, comme Paul avait Timothée. Donc il parle de Timothée, il dit, je veux vous envoyer Timothée, pour qu'il me donne des nouvelles de vous. Alors, c'était pas le temps de notre communication mondiale avec notre technologie comme maintenant. Donc, il avait besoin aussi d'entendre des bonnes nouvelles, de savoir qu'est-ce qui se passe chez les Philippiens, comment est-ce que l'œuvre avance, qu'est-ce qu'ils deviennent. Il dit, je n'ai ici personne qui partage mes sentiments. C'est quand même triste, hein. Mais dans le sens qu'il dit, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire que des fois, on est un peu superficiel. Seigneur, bénis-le. Ah, on entend qu'il a un problème. Seigneur, bénis-le. Mais c'est superficiel. Prendre sincèrement à cœur votre situation, ça veut dire qu'on y prend suffisamment d'attention pour voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider. Et donc, il dit que parmi les personnes qui sont autour de lui, il n'y a personne qui s'intéresse aux Philippiens. Vous vous rappelez que quand nous lisons dans Éphésiens, prier pour tous les saints, donc on aurait pu imaginer que les églises aussi dans l'ancien temps de l'Antiquité, ils priaient les uns pour les autres. Ben non, ils étaient comme nous, des fois peut-être trop occupés par leurs propres problèmes et défis. Et dit donc, voilà, personne partage mes sentiments. Et là, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est un peu une exaspération. C'est pas possible, c'est pas imaginable que ces chrétiens, ils sont tellement occupés par eux-mêmes qu'ils ont même pas le temps de s'occuper des Philippiens. C'est parce que Paul avait ce cœur de père et il s'intéressait à ces églises qu'il avait fondées et il était en souci de leur bien-être. Et donc il parle de Timothée. Et il dit au verset 23, chose importante à retenir pour vous, « J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Et quand je vous ai dit au début que nous sommes tous peut-être prisonniers de quelque chose ou retenus dans quelque chose, j'aimerais que vous voyiez maintenant cette lueur d'espoir au verset 23, « Dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Apercevoir l'issue, ça ne veut pas dire être sorti de cette situation. Mais ça veut dire que dans certaines situations, vous pouvez pas imaginer comment Dieu va-t-il faire pour me sortir de là. C'est comme une impasse. Vous avez un mur, il n'y a pas de sortie. Vous dites, mais comment ça va se faire? Mais là, Paul dit, dès que j'apercevrai au futur. Ça veut dire que il se prépare à ce que dans le futur, il ait une vision de quelque chose qui va se passer dans le futur. Vous me suivez? On est encore loin de la délivrance, mais on en est à moins deux, si vous préférez. Moins deux, c'est au moins, j'attends un moment où je serai dans cette situation où je verrai. Mais c'est important parce que au moins, je ne suis pas dans la situation où je dis il n'y a rien à faire. Je m'en sortirai jamais. Parce que ça, c'est peut-être beaucoup de prisonniers qui étaient avec Paul, c'était ça. Aucun espoir, je m'en sortirai jamais. Mais Paul, il était en train de faire des plans. Y compris dans une épître, on pourrait aussi prendre à Philémon, il dit, j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Mais ici, à un moment, il dit, dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi aussi j'irai bientôt. Ça veut dire, à un moment donné, je vais voir, il y a un projet de Dieu. Il va faire que je puisse m'en sortir. À ce moment-là, je vous envoie Timothée. Là, j'ai dit, ok. J'envoie Timothée un peu comme un précurseur et moi aussi je suivrai bientôt. Donc ça veut dire, lueur d'espoir, je commence à voir les choses. Ensuite, il fait une exhortation sur Épaphrodite et il dit « Je vous ai envoyé déjà Épaphrodite. » Et ce frère Épaphrodite, il a été exposé, il nous est dit à la mort, il a exposé sa vie parce qu'il a suppléé à votre absence dans le service que vous me rendiez. Mais on ne voit pas d'amertume chez Paul, ça aussi c'est important. Il dit « Vous n'étiez pas là pour m'aider, mais lui il était là. » Il a tellement travaillé avec moi qu'il a été fatigué, malade, il est presque mort, mais Dieu l'a rétabli. Maintenant, je vous l'envoie. Voilà, deux chapitres de passé, on a juste survolé, hein. Mais maintenant vient encore une expression au chapitre 3, où il dit « au reste, mes frères ». Si vous vous rappelez que vous avez été des auditeurs attentifs, en Éphésiens, nous avons lu au chapitre 6, au reste, mes frères. Et j'avais expliqué que, voilà, ça veut dire, même si vous oubliez tout ce qui était avant, au reste, ça veut dire, mais le plus important, ce qui va venir, au reste, qu'est-ce qu'il écrit? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si vous oubliez tout le reste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et cela, et pour vous, cela est salutaire. Et je, moi, pas Paul, moi qui vous parle, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car cela est pour vous salutaire. Donc, des mises en garde par rapport à certaines personnes. Encore là, des oppositions de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est sûr que le monde, le diable, s'oppose à Dieu, mais l'ennemi de l'intérieur est souvent beaucoup plus dangereux. Celui qui est en nous, nos propres résistances, les faux frères et tout ce qu'il décrit. Et il dit, moi aussi. Chacun de nous peut dire, moi aussi. Je pourrais mettre ma confiance dans la chair, mais je ne le fais pas. D'accord ? Chacun de nous, quand on veut faire quelque chose, soit dans le naturel, soit dans le spirituel, on a tendance à s'évaluer soi-même. J'espère que vous n'avez pas une image trop négative de vous-même. C'est bien d'avoir une image positive de soi, de voir les dons, les talents que Dieu nous a donnés, de voir notre capacité. Mais à un moment donné, il faut être attentif de dire, si je mets entièrement ma confiance en la chair, en mes propres capacités, je n'irai pas très loin. Parce que Paul nous fait la démonstration, j'aurais pu mettre ma confiance dans la chair, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire que si je veux faire l'œuvre de Dieu, à un moment donné, la chair doit être remplacée par Christ. Et Christ, dans ce cas, ça va nous aider beaucoup à remplacer maintenant le mot Christ par loin. Celui qui a l'onction, ou celui qui donne l'onction, ou nous qui recevons l'onction. Pensez maintenant à votre propre vie. Ces choses, quelles que soient vos qualités, vos points positifs, toutes les choses que vous pouvez faire, maintenant mettez-les de côté pour gagner Christ, gagner l'onction. Si vous reposez que sur votre chair, vous irez aussi loin que votre chair vous permettra. Et ça, des fois, c'est pas très loin. Et là, on est déçu. Ce qu'on pensait. Vous voulez faire des choses, on parlait des résolutions il n'y a pas longtemps. Résolution selon la chair, ça veut dire, voilà, maintenant je m'engage, je vais faire ça. Et si vous avez une volonté très forte, vous allez, pendant un temps, faire certaines choses. Et à un moment donné, vous devez les regarder comme une perte. Si je me confie en ça, je vais échouer. À cause de Christ, l'onction. Alors qu'est-ce que c'est l'onction ? Encore une fois, oindre, ça veut dire il prenait de l'huile ou il prenait une pommade et on mettait sur la peau, sur la personne. Et on frottait, alors ça peut être une forme de massage, une forme d'appliquer des soins, jusqu'à ce que le produit pénètre. Ça peut être un produit simplement pour sentir bon, c'est une huile d'onction, par exemple, qu'il mettait pour les fêtes, ça peut être comparé à un parfum, ou alors ça peut être avec des vertus guérissantes. Donc ça c'est dans le naturel. Et l'onction, donc la manifestation du Saint-Esprit, c'est la même chose pour nous dans le spirituel. Mais plus elle s'applique à nous, à notre être tout entier, esprit, âme et corps, plus l'action va être, peut-être, on a l'impression que d'abord c'est en surface, mais après ça pénètre, c'est ça qui est important. Si vous avez un problème musculaire, ben c'est sûr que si vous mettez juste un peu en superficie sur la peau, ça ne va pas agir tout de suite. Mais on sait qu'il y a des pommades, au bout d'un moment, ça pénètre. Et à un moment, vous avez même un des prophètes qui s'exclame, n'y a-t-il plus de baume en Galade ? Galade était célèbre pour certains baumes qui étaient bienfaisants. Et on voit dans toute la Bible cette symbolique de l'onction que les gens connaissaient, ils savaient ce que c'était. Et on a entendu tout à l'heure, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe, qui va sur ses vêtements, et donc l'homme de Dieu, le prophète, le sacrificateur, reçoit l'onction et la transmet, et ça va bénéficier à tout le corps. Et donc c'est vrai pour nous en tant qu'individus, mais ça nous aide aussi dans des choses très pratiques. Verset 8, on peut le dire ensemble même. Pendant que vous lisez, mettez-vous à la place. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tout le monde dit tout ? Vous n'avez peut-être pas encore renoncé à tout. Parce que si on est honnête avec soi, on dit « Seigneur, je te donne tout ». Oui, mais sauf ça et ça. Dès que ça devient précis, on se rend compte « Ah, j'ai pas encore tout renoncé ». Mais je les regarde comme de la boue afin de gagner l'onction. L'onction doit devenir quelque chose de précieux pour vous. C'est comme l'huile précieuse. C'est écrit dans le psaume 133. C'est l'huile précieuse. Vous savez que imiter certaines huiles sacrées était gravement condamné dans l'Ancien Testament. Les gens n'avaient pas le droit de faire certains parfums et huiles tels qu'ils étaient décrits dans la Bible pour s'en servir pour d'autres choses. C'était des recettes sacrées. On n'avait pas le droit de... C'était précieux. Il y a des choses que tout le monde connaissait, mais il y avait des proportions qui étaient réservées pour certaines choses spirituelles. Et donc, d'être trouvé en lui, je veux être trouvé en lui. Vraiment, lisez-le en vous mettant « je ». C'est pas Paul là qui parle, c'est vous, chacun de vous qui doit parler. Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, telle qui vient de la loi, ou des lois que je me serais inventées moi-même, parce que des fois on se fait des lois à soi-même, mais à celle qui s'obtient par la foi en l'onction. Encore une fois, en l'onction. J'ai la foi en l'onction, j'ai la confiance en cette capacité de l'Esprit de Dieu. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai l'onction. J'ose remplacer Christ par l'onction. Je connaîtrai l'onction, je verrai cette action de l'Esprit de Dieu sur moi et la puissance de sa résurrection. Ça y est, on y est. On est arrivé au titre. Expérimenter la puissance de sa résurrection. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas écrit expérimenter, c'est écrit connaître. Mais c'est parce qu'on a des problèmes, nous, avec ce mot connaissance. Ce mot connaissance va plus loin que ce qu'on imagine d'habitude. Comme on est très, très cérébral, cartésien, intellectuel, connaître Christ et la puissance de sa résurrection, ça peut se limiter à un concept intellectuel. Ah oui, je sais exactement comment tout se passe avec Christ, l'onction, le Saint-Esprit, tout. Et donc, je pense que c'est ça, connaître. Mais dans la Bible, connaître, c'est expérimenter. Ainsi, je connaîtrai Christ. Ainsi, ça veut dire de cette façon. D'accord ? Il ne faut pas lire la Bible superficiellement avec oh, tous ces petits mots qui sont là, des conjonctions, des coordinations, des trucs pour introduire les phrases. Voilà, alors, seulement, si donc, ainsi, au reste, et écart, et c'est pas fait pour faire joli, c'est qu'il y a une raison. Et donc, ainsi, je connaîtrai. Ainsi, ça veut dire de cette façon. Je connaîtrai de cette façon, Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, de voir ce qu'il a souffert et de voir ce qu'il a dû affronter en devenant conforme à lui dans sa mort. Conforme à lui, ça veut dire qu'il a être prêt à renoncer. Il a été prêt à renoncer, mais on sait, en vue de quoi ? Hébreux 12 nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée. On ne dit pas, il faut que tu renonces à tout. Ta vie est terminée. Voilà. T'as pas droit d'expérimenter quoi que ce soit. Les autres peuvent s'amuser, avoir du plaisir, de joie et tout. Mais toi, tu as décidé d'être chrétien, maintenant c'est terminé. Non. En vue de la joie qui lui était réservée. Une joie de notre niveau plus supérieur. Pour parvenir, conforme à sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul n'avait aucun doute concernant son salut. Il n'avait aucun doute concernant la vie éternelle. Il n'avait aucun doute concernant le fait qu'un jour il ait un corps de résurrection. Mais là, il dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il poursuivait aussi, comme chacun d'entre nous, comme tout chrétien, je dirais, raisonnable, menant un culte raisonnable, il poursuivait le but d'expérimenter toujours plus de Dieu dans cette vie. Pas seulement dire, faut maintenant que le temps se passe et après ça sera bien. Non, dès maintenant, si je puis parvenir, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Et pas dit je traîne les pieds ou je bouge pas mais j'attends ou si Dieu le veut, il me le donnera. Non, je cours, je fais quelque chose puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Des fois, on dit, langage familier, t'as saisi? Est-ce que vous avez saisi ça? Est-ce que vous l'avez vraiment compris, réalisé? Il dit, j'ai pas encore vraiment saisi tout ce qu'il y a à saisir. J'ai été moi-même saisi. Et maintenant, je tâche de saisir aussi ce qui m'est offert. Et pour ça, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Encore une fois, il dit deux fois, je cours. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et on sait qu'on ne peut pas courir quand on est chargé de plein de fardeaux. D'accord ? C'est pas possible. On ne peut pas faire des sprints en étant... Donc, Il faut être dégagé. Donc, c'est là qu'il les exhorte en disant, mais nous, verset 20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, dès à présent, on dit encore une fois, voilà les choses qu'on attend. Donc, si chacun d'entre nous, si c'est dans un domaine physique, on attend une libération, une délivrance de maladies, d'infirmités, de choses qui ne vont pas. C'est pour le corps, c'est pour l'âme, c'est pour l'esprit, tout entier, tout, notre être tout entier. Et on termine par le chapitre 4. Donc, à nouveau, ça commence par la joie. Mes bien-aimés, très chers frères, vous êtes ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Ainsi, c'est-à-dire de cette façon. Verset 4, le fameux, très bien connu, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Mais comment on peut se réjouir si on a plein de soucis et d'inquiétudes? Encore, il nous dit comment faire. Et encore, rappelez-vous, c'est pas une personne où tout allait bien, voilà, pour... Bref, c'est facile à dire, Paul, hein, regarde ta situation, hein. Tout va bien pour toi, hein, c'est ça? Non, rappelez-vous qu'il, tout ce qu'il a souffert, était, comme il était souvent en prison et maltraité. Et donc, mais il a dit, encore une fois, voilà ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez de rien. Apprenez à dire qu'importe. C'est pas mon problème. Pourquoi c'est pas mon problème? Parce que je fais connaître mon besoin à Dieu. Et s'il s'en occupe, c'est plus à moi de m'en occuper. Et si je veux pas qu'il s'en occupe, alors je fais moi-même. Mais il faut choisir à un moment donné. On ne peut pas dire, Seigneur, tu t'en occupes, puis l'instant d'après, on lui reprend et c'est moi qui m'en occupe. Si vous avez physiquement ou réellement, concrètement, vous êtes deux personnes, il y a un travail à faire, vous décidez qui le fait. Mais à peine vous le donnez à quelqu'un, vous le reprenez tout de suite, ça ne peut pas marcher. C'est très simple. Ne vous inquiétez pas, mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Rappelez-vous, la supplication, c'est pas pour essayer de convaincre Dieu de vous donner quelque chose qu'il veut pas vous donner. Supplication, c'est simplement une façon où on voit la sincérité au niveau de votre âme et votre désir intense de voir la chose se faire. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, dit une autre version, montera la garde autour de vos pensées. Et Paul dit, donc là encore, je ne vais pas le commenter parce qu'il est bien connu, très important, mais il dit au verset 8, tout ce qui doit être l'objet de nos pensées. Mais il dit au verset 9 quelque chose de très important, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. On va dire, quoi encore, parler de la pratique, toujours parler de la pratique, mettre en pratique. Combien de fois il faudra encore le répéter? Ben, normalement, un élève redouble quand il réussit pas son année ou son examen. Pourquoi il redouble? Parce qu'il n'a pas encore assimilé la leçon. Le fait de redoubler n'est pas à prendre comme une espèce de jugement personnel sur mon incapacité. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais pas prêt pour faire face à l'épreuve. Si quelqu'un reçoit pas son permis de conduire, c'est qu'il n'était pas capable de conduire. Ça vaut mieux pour tout le monde, normalement. Bien sûr, celui qui le réussit, ça ne veut pas dire qu'il est un conducteur parfait. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des conduites dangereuses et pourtant ils ont leur permis. Mais théoriquement, celui qui ne reçoit pas son permis, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore bien assimilées. Donc il le repasse, parce qu'il va encore s'entraîner, pour mieux réussir la prochaine fois. Et après, pour sa propre sécurité et pour les autres gens, normalement, les routes sont plus sûres avec quelqu'un qui a acquis. Je dis bien normalement. Mais c'est juste pour donner un exemple. Mais la chose est vraie aussi pour nous. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment assimilées au niveau de notre connaissance spirituelle, on n'a pas réussi à appliquer. Alors, il faut que quelqu'un nous rappelle, c'est la parole de Dieu qui le dit, qu'il faut encore mettre en pratique. Tant que tu ne mettras pas en pratique, ça ne servira à rien. Et entendu Joyce Meyer l'autre jour, j'ai juste regardé 2 minutes de son émission, hein. C'est pas que le reste n'était pas intéressant, mais il y avait autre chose à faire. Elle a dit, vous pouvez acheter tous mes livres, tous mes CD, écouter tous mes messages, et ça ne nous servira rien du tout tant que vous ne le ferez pas. C'est tout simple, mais c'est vrai. C'est tout vrai. Donc, dans Jacques 1, versets 22 à 25, on ne va pas le regarder, mais c'est « Mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter seulement », j'ai remarqué qu'il y a quatre éléments. Il dit « Écoutez, recevez avec douceur, faites, et alors vous serez heureux. » Si vous n'avez pas ces étapes, ben, ça ne marchera pas. Hein. Mais Paul disait « Moi, je l'ai fait. » Alors, vous pouvez le faire aussi. Il n'a pas dit « Faites-le. » Vous savez, un des reproches de Jésus, c'était « Il y a beaucoup qui sont des maîtres et qui vous disent ce qu'il faut faire, mais ils ne remuent pas du petit doigt ce qu'ils vous disent de faire. Mais Paul était un autre enseignant. Il disait, ce que je vous demande de faire, moi-même je l'ai fait. Donc, je l'ai éprouvé, ça marche. Et donc, on termine sur la joie. Vous êtes content de terminer sur une note joyeuse. Alors, verset 10, j'ai éprouvé une grande joie. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs aspects de la joie, mais là il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur ». Verset 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Là encore, une autre version dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». On pourrait dire encore « Je puis tout par l'onction qui me fortifie ». Donc c'est toujours une bonne déclaration pour vous. « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». « Je puis tout par l'onction du Saint-Esprit qui me fortifie ». Mais il dit, mais parce que vous avez participé à cette œuvre, parce que lorsque j'étais éprouvé, vous m'avez envoyé une offrande, ça m'a encouragé dans mes besoins. Et à deux reprises, verset 16, vous m'avez envoyé quelque chose de quoi pourvoir à mes besoins. Il dit, je recherche pas, c'est pas ça qui est le plus important. Mais je vois que au travers de ça, vous avez manifesté quelque chose. Votre attachement, votre soutien, etc. Et à cause de ça, verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. On aime bien le citer, je pense. En tout cas, je vous encourage aussi à le citer. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon ses richesses. Vous voyez la notion des richesses de Dieu, elle est illimitée. Selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Voilà une bonne déclaration. Au début, on est prisonnier de quelque chose, on a peut-être des limitations, mais finalement, on termine en voyant nous sommes bénis par un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est écrit tous vos besoins selon ses richesses. Je vous propose encore de faire cette déclaration ensemble selon Éphésiens 3:20. Et Dieu peut par la puissance qui agit en moi, faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou que je peux penser. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.